ce matin, j'aimerais terminer ensemble. On a parcouru ensemble ces trois dimanches, on en a fait trois sur quatre, trois dimanches de l'Avent où on a découvert le plan merveilleux de Dieu. Et on a vu au cours de ces semaines comment Christ est centré, comment la Bible est centrée sur Christ, pardon. Comment Christ se révèle finalement comme être le plan de Dieu pour nous. Pour cette humanité qui a eu, et on l'avait vu ensemble, qui a chuté, cette humanité qui a désobéi, cette humanité qui s'est perdue. Et malgré l'appel de Dieu à marcher, tout était voué à l'échec, hein, on l'a vu ensemble, parce que l'homme était irrécupérable. Il fallait que Dieu ait un plan. Et nous l'avons vu nous aussi que nos plans à nous sont souvent mauvais. Nos plans à nous parfois sont tombes à l'eau. Mais Jésus, c'est pas le plan B de Dieu. Et ça, c'était vraiment le point, si on devait retenir une chose, c'est que le plan de Dieu, ça a toujours été Christ. Il n'y a pas eu un plan bricolé à l'arrache. Il est loin, très loin, le plan que Dieu avait déjà prévu pour nous, même si il a fallu un temps, il a fallu un moment, il a fallu passer par plein de choses qu'on a vu un peu ensemble. On a vu que cette descendance avait été annoncée. On a vu que cette descendance qui sauverait du péché. On a vu ensemble aussi ce prophète qui allait parler au nom de Dieu. On a vu ce prophète qui était plus grand que Moïse. On a vu aussi ce roi qui allait être un fils. Et on a vu ce fils qui serait très spécifique, qui porterait des noms divins. Et là, on va terminer ensemble sur ce qu'on va fêter bientôt. Bible en main, on va lire ensemble quelques textes qui nous confirment que Jésus était ce plan, et ce plan passait par quelque chose d'incroyable qu'on ne trouve que chez nous, c'est-à-dire que dans la Bible, on trouve ça, où Dieu s'incarne dans l'histoire des hommes. Et ce matin, je vous propose de voir avec nous, voilà, on a vu, hein, Dieu n'est pas surpris par le péché, Dieu n'était pas surpris par toutes les guerres qui vont du royaume d'Israël, il n'est pas surpris par les exils, il sait de quoi nous sommes faits. Et voilà, dans cette dernière partie, on va voir que Dieu avait déjà le salut, et ça commence par cette naissance. Mais avant de commencer, j'aimerais prier pour que le Seigneur ouvre nos cœurs, ouvre nos esprits pour comprendre ce qu'il va encore nous dire ce matin. Et merci Seigneur, parce qu'on l'a chanté, tu es celui qui est venu nous sauver, tu es ce Rédempteur, tu es celui qui a uni le ciel et la terre, parce que nous étions à jamais séparés de toi par notre faute, par notre péché, par tout ce qui nous anime. Et tu as trouvé bon, dans ton plan merveilleux, aussi incroyable, comme il était dit au début, on ne peut comprendre ton plan, Seigneur. On ne peut saisir le mystère de la croix, le mystère de cette naissance, mais on croit, Seigneur, que Jésus-Christ est venu s'incarner pour nous sauver, pour nous sortir du péché, que ce matin encore tu puisses nous parler, nous conforter là où on en a besoin, Seigneur, et tout à nouveau être brûlant pour toi, Seigneur. Amen. Voilà, donc la naissance de Jésus. Alors Jésus est né, on n'a pas les dates exactes, hein, mais autour de moins 4, il n'est pas né en 0, ni en 1, bon. Mais en tout cas, il est né dans ce qu'on appelle le silence de Dieu, hein. 400 ans de silence, hein, c'est comme ça qu'appellent entre Malachie, le dernier prophète, et le début des évangiles, ou quand Christ va naître, il y a cette espèce de silence de Dieu, qui dure très longtemps pour le peuple, il n'était pas habitué. Il y a toujours eu, hein, si vous connaissez un peu l'histoire de l'écriture, le peuple, il y a toujours eu des prophètes qui venaient quand même de temps en temps rappeler qu'ils allaient aller en exil s'ils désobéissaient, retourner dans leur pays, qu'il y avait une délivrance, il y avait toujours quand même une espérance. Donc on n'est plus du tout dans le judaïsme d'aujourd'hui, hein, qui ne croit plus beaucoup à un Messie. À l'époque de Jésus, c'était très 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 fort. On attendait un libérateur. On avait Rome qui était maintenant très forte, et on attendait une libération. Il fallait que les promesses des prophètes s'accomplissent. Pas de signe, un silence de Dieu, entre guillemets, hein, je l'ai mis, un espèce de silence de Dieu pour un peuple qui avait l'habitude d'être en dialogue avec ce Dieu, c'est le silence. Donc c'est un contexte très difficile, hein, on attendait vraiment ces promesses de libération. Et quand on a ça en tête, hein, on comprend mieux les disciples de Jésus. Ils vont avoir un comportement qui correspond à l'attente qu'ils ont. Ils attendent un libérateur armé, ils attendent un messie guerrier, ils attendent un roi qui vient prendre son trône. Et c'est pourquoi je voudrais commencer avec Matthieu, dans son évangile, c'est pour ça qu'il va souligner l'importance de cette naissance. Pour les Juifs au départ, hein, puis pour tous les autres qui vont lire par la suite, il va dire « La naissance de Jésus est une réponse. » C'est la réponse de Dieu. Et on a un Matthieu 1.1, là j'en ai mis quelques-uns. Hein. Alors désolé, on va un peu piocher, je vous conseille chez vous, hein, vous savez, je vous donne souvent des devoirs. Lisez le début de Matthieu, c'est vraiment très intéressant quand on voit comment ça répond au questionnement du peuple. Dans Matthieu 1.1, il commence par ça, « Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Là, ça, c'est le premier verset de Matthieu. Il est en train de dire à ses lecteurs, « Il est fils de David, donc il est roi, et il est fils d'Abraham, donc c'est celui qui est aussi descendant de toutes les promesses d'Abraham. » Donc on a quelque chose dans rien que ce premier verset qui indique à ses lecteurs, c'est important ce que vous allez suivre. Et plus tard, on l'a déjà lu, hein, Matthieu 1.22, on a lu le pendant dans Luc, mais dans Matthieu, il précise « Tout cela arriva pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Je fais écho à ce qu'on a vu il y a 2 semaines, où Ésaïe annonçait « Voici, la Vierge deviendra enceinte, et on l'appellera Emmanuel. » Matthieu fait le lien entre la naissance de Jésus, il dit « Ne cherchez plus ». Lecteur, ne cherche plus quelqu'un d'autre, quelqu'un qui doit venir. Jésus est celui qui répond à la promesse du prophète. Et plus loin dans Matthieu 2, 3 à 6, quand Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où le Messie devait naître. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite des villes principales de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. » Voilà, on a aussi un accomplissement de ce qui est écrit par les prophètes. Là où la ville même où Jésus va naître, Bethléem, c'est là où doit naître le roi. Et plus loin, Matthieu 2, 13 à 18, hein, les mages sont avertis. Il ne repasse pas par Hérode. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph le prit de nuit, l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, selon la date qui avait été fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Et un dernier petit passage, Matthieu 2, 22-23. Cependant, quand il apprit qu'Archélus, donc ça c'est Joseph, hein, régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé, il sera appelé Nazaréen. Alors ça fait beaucoup de textes, hein, je sais bien, mais c'est juste pour montrer que Matthieu commence, donc Matthieu 1 et 2, il condense et il présente tout ce qui s'est passé lors des 2 premières années ou les 3 ou 4 premières années de Jésus, et dit cela répond à l'ensemble, presque par l'ensemble, à beaucoup de prophéties, à beaucoup d'annonces qui avaient été faites avant. Et on le revoit, c'est comme un fil rouge chez Matthieu, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes, afin que s'accomplisse l'Écriture, afin que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète Jérémie. Et en fait, ces passages soulignent l'importance que place l'auteur dans cette naissance. Il dit, cette naissance, ce qui est arrivé là, c'est pas arrivé à n'importe qui. Ça, c'est quelque chose de très précis, mais un zoom sur un enfant qui est né à Bethléem, dans une étable, à cause d'un recensement d'un grand empereur. Plein de petites choses amènent Matthieu à dire, attention, arrêtez tout, cherchez plus. Celui qui est né là, c'est celui qui sera appelé le Nazaréen, c'est celui qui est le fils qui lui a appelé d'Égypte, c'est celui qui répond au prophète, c'est le fils de David. La naissance de Jésus est donc le point culminant pour Dieu, pour le salut de l'humanité. L'ensemble de ce qu'il va vivre commence par cette naissance. Et c'est ce qu'on a chanté, hein, c'est la rencontre entre Dieu et les hommes. Ça commence par une naissance. Vous savez, dans beaucoup de religions, c'est l'homme qui s'élève à Dieu. Alors, par des vertus, hein, on se débarrasse de nos enveloppes, de ce qui peut nous retenir, et on monte vers Dieu. Et Dieu nous voit et dit « Ah, vous êtes acceptable à mes yeux ». Et là, c'est pas du tout le cas. Là, la Bible dit « Vous ne pouvez pas vous élever à Dieu ». Toute la Bible annonce « C'est impossible ». Donc moi, ce que je fais, je viens à votre rencontre. Et comment il est venu ? Hein, on est beaucoup dans une société du visible, une société de l'apparence. Et bien pourtant, Dieu a décidé de venir dans un petit enfant. Dans toute cette fragilité, pour ceux qui ont déjà tenu un bébé, ceux qui ont été parents, grands-parents, on voit qu'on a tenu un bébé, c'est d'une fragilité. Et il a endossé cette humanité. Et je trouve ça assez incroyable, c'est par ce petit enfant que Dieu apporte la réponse de tous les prophètes. Dieu apporte la réponse. Il dit, voilà, cette naissance, c'est quelque chose d'important. C'est l'arrivée sur terre d'un homme, on l'a vu l'année dernière, pour ceux qui se rappellent, 100% homme, 100% Dieu, Jésus c'est le seul qui a 200%. Et c'est le Messie. Il dit, attention, ne cherchez plus à cette naissance, c'est celui qui naît à la ville des rois. C'est lui qui est héritier de David. C'est ce que annonce l'ange quand il parle à Marie. Il dit, voilà, je lui donnerai le royaume, le trône de David, son père. Il y sera pour l'éternité. On a quelque chose d'accompli. Il y a un accomplissement qui arrive en Jésus-Christ et par sa naissance. Alors, il y aurait beaucoup d'autres versets, mais j'aime beaucoup. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, là, j'ai un peu décousu. Mais si vous lisez Matthieu 1 et 2, vous voyez que Matthieu place un contexte qui annonce à ses lecteurs, ne cherchez plus un autre bébé, c'est Jésus, c'est celui-là que Dieu a envoyé. Et voilà pourquoi ça change. Qu'est-ce que ça change, on va se dire ? Qu'est-ce que ça change pour nous ? C'est un accomplissement des promesses. Et ça montre aussi que Dieu reste souverain de l'histoire. C'est Dieu qui a l'initiative, on l'a souvent dit ici. Dieu est à l'initiative, c'est lui qui fait l'action. On l'a vu tout au début, c'est lui qui a décidé de créer. Personne n'est venu lui dire, tiens, tu serais bien que tu crées le monde. Il a fait de lui-même. Et là, pareil, face au péché, sa réponse, c'est je prends l'initiative d'envoyer dans l'histoire des hommes, à la manière des hommes, un enfant. C'est celle du Messie. C'est toujours la même question, et qu'est-ce que ça change pour nous Si on prend en considération l'amour de Dieu, ça nous offre un moyen, par cette naissance, de réconciliation avec lui. Alors bien sûr, on sait tous, ou beaucoup d'entre nous savent que ce n'est pas la naissance qui sauve en elle-même. C'est tout ce que Dieu va faire, Jésus va faire, et ça on va le voir. Mais Jésus ne peut accomplir toute l'œuvre qu'il va accomplir s'il n'était pas né comme un enfant dans cette humanité. L'œuvre de Jésus nous sauve, mais cette œuvre commence, et on l'a chanté, par sa naissance, par sa vie, par sa mort et par sa résurrection, je rajouterai. C'est l'ensemble qui est une œuvre magnifique. Et cette naissance répond à l'initiative parfaite de Dieu qui était prévue de toute éternité, mais qui est impensable pour nous. Et ça, si vous connaissez un peu l'histoire de Jésus, c'est impensable qu'un homme se fasse Dieu. Pour eux, ils vont lutter contre Jésus en partie à cause de ça. Et plus loin, lors de l'Église naissante, Paul va souvent écrire que c'est une folie de Dieu, mais qu'il y a une sagesse beaucoup plus grande que nous. La croix est une folie pour certains, pour les Grecs, et encore aujourd'hui pour d'autres. La puissance libératrice passe par la mort. Et aussi, ce matin, si tu es croyant en Jésus-Christ, je t'ai rien appris. Mais simplement, prends le temps de t'arrêter sur ces textes lors de ces fêtes. Avec ta famille, seul, ou avec d'autres. C'est vraiment, en le préparant, je dis que c'est incroyable. Je me répète souvent, je sais, mais c'est incroyable l'amour que Dieu a pour nous. Je suis souvent arrêté dans ma lecture et puis je suis surpris de la simplicité, mais en même temps la grandeur de Dieu et de son amour envers nous, envers moi. J'avais absolument rien pour être sauvé. J'ai rien fait. Et quand je vois parfois comme je me comporte et que je vois la valeur de cette naissance, la grandeur de ce Dieu, je suis bouche bée. Je fais waouh, un Dieu qui se donne. Un Dieu qui se donne par une naissance. Ça paraît normal, on l'a tellement répété, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai eu la chance de faire ça, d'avoir ça. On me l'a tellement répété que ça devient, c'est normal. Mais non, regardez autour de nous, ce n'est pas normal. Quand on regarde et j'interroge, si vous êtes curieux d'interroger d'autres religions, c'est pas normal. Et souvent, quand je me suis interrogé avec j'ai beaucoup d'amis qui étaient musulmans, pour eux, c'est incompréhensible. Pour eux, c'est incompréhensible. Et Dieu ne peut pas venir s'incarner dans l'humanité, c'est incompréhensible. Et là, tout est le paradoxe. Si Dieu ne s'incarne pas, nous ne sommes pas sauvés. Et s'il s'incarne, il faut croire que ce bébé est aussi Dieu. Ça, c'est la foi. Il nous a rachetés à un prix beaucoup plus grand qu'on ne pourra jamais penser. Alors pour ceux qui sont parents, peuvent imaginer donner son fils pour sauver des gens qu'on n'aime pas. Ben c'est vrai, hein, moi j'y ai déjà pensé. Moi je ne donnerais déjà pas mon fils pour quelqu'un que j'aime. Alors je ne suis pas sûr pour quelqu'un que j'aime pas, mais des fois on se dit, punaise, Dieu, quel amour tu nous as aimés. Et ça paraît répété, mais quand on s'arrête, on se dit, Seigneur. Et l'amour grandit en fait, c'est ça. Quand si on est croyant, on se dit, on n'apprend rien, mais l'amour qu'on porte à Dieu grandit. Et on a une intimité avec celui qui est venu nous sauver. Et on se dit, oui, c'est cette simple naissance qui répond au prophète. Une simple naissance. Et si tu ne crois pas, ben là, prends le temps, sérieusement le temps de cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle, c'est un évangile. Matthieu, quand il a écrit, s'adressait à ceux qui ne croyaient pas, ou pas encore. Par son envie, par son inspiration de l'esprit, il a écrit son évangile pour que tous ceux de son époque et ceux qui viendront après s'arrêtent un instant et prennent conscience de ce qui s'était passé en disant, voilà, ça s'est passé, ne cherchez plus. Voilà la réponse de Dieu au péché. Arrêtez d'attendre le Messie, il est là. Arrêtez d'attendre autre chose, tout est arrivé là. Et c'est valable encore aujourd'hui pour toi. Ça a traversé les âges. N'attends plus. C'est toujours valable. Pense-y. Suis-je en règle face à Dieu? S'il y a un Dieu, est-ce que je suis en règle? Est-ce que je me suis dépouillé de mes péchés de moi-même? Qu'est-ce que je me suis élevé par mes propres qualités? On peut être quelqu'un de très moral et de très bon. C'est vrai. C'est pas un problème, mais c'est l'offense. Vous savez, dans son livre, David Platt, dans son livre « Suis-moi », il disait « C'est souvent l'offense ». Et l'importance de celui qui est offensé, qui est différente. Et il discutait de ça en Turquie, je crois, il était avec un chauffeur de taxi. Et il disait au taxi, celui-là qui conduisait le taxi, il lui prêchait l'évangile, et il dit, imaginez si moi je vous mets une baffe, qu'est-ce que vous me faites? Il fait, je vous sors du taxi. Il fait, maintenant, si je vais baffer ce policier. Il dit, là, vous allez sûrement aller au commissariat et on va peut-être vous molester un petit peu. Il dit, maintenant, si je vais frapper votre président. Il dit, voilà, vous risquez la mort. Il dit, imaginez avec Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez faire si ce n'est la mort? Si déjà mettre une baffe à un président de Turquie, ça vous provoque la mort. Si vous offensez Dieu, qu'est-ce qu'il y a après? Et il l'a fait réfléchir sur l'impossibilité de l'homme à se réconcilier avec Dieu. Et il dit, il faut qu'il y ait un médiateur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne ce que vous devez avoir. Quelqu'un qui porte sur lui la faute ou le châtiment de cette faute. Et c'est encore ce que nous dit Matthieu en disant, cherche plus. Cette naissance dans ce corps fragile de bébé, Dieu t'appelle encore ce matin. Parce que gloire à Dieu, parce qu'il s'est soucié de nous. On a échangé cette semaine le psaume 8 où David, face à l'immensité, dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'es soucié de lui? Qu'est-ce que le fils de l'homme? Mais tu t'es soucié de nous au point de venir. Et ça, c'est cette naissance. Jésus est ce Messie annoncé par les prophètes, il est le Fils de Dieu, il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Jésus n'est donc pas le plan B, mais le plan de Dieu. Et on voit dans cette naissance que c'est toute cette fragilité qui est endossée, que c'est Dieu qui s'abaisse à l'humanité et qui rentre dans cette histoire. Aujourd'hui, on dit avant et après Jésus-Christ. C'est un héritage de la foi, mais je trouve ça encore assez parlant aujourd'hui. Il y a eu un avant et il y a eu un après. Il y avait un avant et un après. Jésus, plan B. Et maintenant, là, une œuvre, alors j'aurais même pu mettre une œuvre, et ça sera le dernier point. Une œuvre, j'allais dire, accomplie. La naissance, oui, mais c'est que le début. Jésus doit faire les œuvres de son Père. Jésus grandit, on ne sait pas grand-chose quand il est plus jeune. C'est juste qu'il s'occupe de son Père, mais il est soumis à ses parents. Mais il va commencer son ministère public lorsque Jean-Baptiste est arrêté. Et il va vite devenir, on va lui donner beaucoup d'étiquettes, un fauteur de troubles pour certains, un blasphémateur pour d'autres, un prophète, un maître, un rabbi, comme ils le disent. L'œuvre de Jésus sur terre en Israël n'a laissé personne indifférent. Il a remué à son époque. Jésus ne s'est pas laissé guider par la politique, ne s'est pas laissé guider par les influences différentes. Il s'est laissé guider que par une chose, accomplir les œuvres de son Père, pour accomplir l'Écriture. C'est ce que je vous propose de survoler là aussi. Hein. Je donne un peu de travail, mais si ça intéresse, voilà, vous pouvez lire aussi les débuts de Jean. Et la fin, c'est vraiment très parlant aussi comment Jean présente en Jean 5, 20. Hein, on le retrouve aussi en 5, 36, 10, 25, Jean 10, 32, Jean 10, 37 et 38, 14, 10, 12, 15, 25. Vous voyez, c'est très important pour Jean. Il va présenter Jésus comme celui qui fait les œuvres. Les œuvres de qui ? De son Père. Dans Jean 5, 20, hein, en effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Tout ce que lui-même fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus a toujours accompli le plan pour lequel il était envoyé. Sa naissance était l'entrée, la porte d'entrée de sa vie. Mais son ministère, sa mort et sa résurrection faisaient partie de ce qu'on appelle l'œuvre de rédemption. Cette œuvre pour laquelle il a été envoyé. Ça ne rend pas les choses faciles de savoir. Mais il était venu pour ça. Jésus s'était compris comme celui qui devait aller mourir. Alors que tout le monde autour lui donne d'autres étiquettes, tout le monde autour lui demande plein d'autres choses que d'être lui-même, Jésus résistera. Il résistera à plein de choses, même des bonnes choses. À chaque fois qu'on a voulu le couronner roi, il s'est échappé. Ce n'était pas le moment pour lui d'être roi. Et quand quelqu'un veut vous couronner roi, ça flatte l'orgueil. Hein. Quelqu'un vous dit « vous êtes le roi », moi je m'assois tout de suite sur le trône et je commence à commander des trucs. Parce que nous, on est dans cette faiblesse. Mais Jésus était venu accomplir quelque chose qui dépassait de loin la compréhension de ceux qui étaient là et qui nous dépasse encore aujourd'hui. Et donc Jean insiste, lui va insister sur le besoin de l'accomplissement des promesses. C'est conforme à ce qu'annonçaient les Écritures. Là, c'est dans Jean 18, 28, 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était accompli, dit « Afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre, les soldats remplirent l'éponge, la fixèrent sur une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Là, Jésus, il est sur la croix. Son accomplissement est presque parfait, hein, c'est ce qu'il dit, « afin que l'Écriture se réalise pleinement ». Pleinement. Il y a une complétude dans ce que Jésus fait. Et juste avant, hein, Jean 19, 24, c'est ces soldats qui sont autour et puis qui disent « Ah, on se partage ». Vous savez, les soldats avaient le droit de partager les fringues, les vêtements de ceux qui étaient condamnés. Et là, il y en a un qui va dire, comme c'est une belle tunique, il dit « Ne la déchirons pas, mais tirons-la au sort pour savoir à qui elle sera. C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. » Ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Là, Jean renvoie à un psaume. Il dit, ça, c'est pas anodin ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de crucifiés. Hein. Vous savez, Rome était un spécialiste de la crucifixion. Et un jour, ils ont crucifié tellement de personnes qu'il y avait une route qui allait d'une ville à une autre et il y avait des croix tout le long. La crucifixion de Jésus, la crucifixion d'elle-même, c'est normal. C'était la punition normale. Mais cette crucifixion a quelque chose d'incroyable, c'est qu'elle répond à ce qu'avait dit l'Écriture. Elle répond parfaitement à ce qu'avaient annoncé les prophètes. Et dans Jean 20, hein, là on est dans la suite, dans Jean 20, verset 9, hein, Jésus est ressuscité, mais ça il ne le savait pas encore, et c'est pour ça quand il dit « En effet, il n'avait pas encore compris que », ça c'est les disciples, « d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. » Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Voilà, les disciples sont déçus parce que Jean souligne en écrivant « Il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. » Jean, comme Matthieu, l'avait fait avec la naissance. Hein. Matthieu, il met le zoom sur la naissance, il dit « Cette naissance répond aux critères de l'Écriture. Jésus est donc bien celui qui devait venir par cette naissance. » Et Jean dit « Cette mort répond au prophète. » La mort de Jésus, ça répond à tout ce qui était annoncé. Jésus donc accomplit cette œuvre qui était annoncée dans la Bible. Jésus est né et a grandi pour servir son Père seulement. Servir son Père seulement. Quand on voit le temps que Jésus a passé dans la prière, je me dis comment moi je peux négliger la prière. Si Jésus lui-même a passé tellement de temps dans la prière, tellement de temps à genoux, comment moi parfois je prends ce ministère peu à cœur. Jésus n'a rien fait en dehors de ce qui était annoncé. Tout ce qu'il a été fait, tout ce qu'il a fait était guidé par une seule chose. Marcher dans ce que son Père avait prévu. Donc Jésus devait naître, et ça c'est déjà extraordinaire, on l'a vu. Hein. Mais Dieu ne parle pas, enfin la Bible, pardon, ne parle pas de Jésus comme un super-héros qui a conquis le cœur de tous. Il aurait pu mettre une cape, s'envoler, avoir un beau costume. Hein, en ce moment, on aime beaucoup les héros. Il aurait pu. C'est pas le plan de Dieu. Ça, c'est notre plan à nous. Mais Jésus, il est venu s'incarner dans un bébé fragile, dans un pays difficile, dans le pays d'Israël. Il est né en tant que juif, il a grandi, il a fait ses œuvres, il a marché, il a été fatigué, il a eu faim, il a eu soif, il a été peiné. Il a fait toutes ses œuvres et au lieu de profiter de sa notoriété qu'il a pu avoir, il est resté dans cet anonymat, en tout cas il a refusé toute la gloire qu'on pouvait lui donner pour servir la gloire de son Père. Et ça, c'était le plan de Dieu. C'est incroyable, hein ? Le plan de Dieu passait par le sang qui devait être versé par le sacrifice. Alors c'est sûr que quand nous, si on veut parler parfois à nos frères aînés juifs, ils ne comprennent pas parce que Jésus, ce n'est pas un sacrifice pour eux. Il n'est pas allé amener au temple, on ne l'a pas donné à un Lévi, on ne l'a pas sacrifié comme les sacrifices étaient faits au temple. L'agneau qui était sacrifié lors de la Pâque, il n'était pas comme ça. Il a été crucifié, oh là là. Il était maudit, celui qui est sur le bois. Mais il faut faire comprendre qu'au travers ce sang versé, au travers ses souffrances, ben c'est ce qu'on a lu, hein, c'est ce qui a été lu tout à l'heure au cours de la louange, c'était la réponse que le prophète annonçait, il a été crucifié, il a été payé pour nous. En fait, la naissance n'était pas suffisante, il devait mourir. Il devait racheter complètement cette humanité. Dieu voulait une relation avec les pécheurs, mais il était impossible que le pécheur puisse être avec lui. Donc, il envoie son Fils comme réponse, comme ce plan parfait. Jésus n'est donc pas seulement le maître, naître, mais mourir comme représentant de cette nouvelle humanité. Ça, c'est ce que développera Paul plus loin. La nouvelle humanité en Jésus-Christ. Nous, nous sommes tous déchus en Adam. Et j'espère que ce matin, vous êtes tous, à dire, régénérés en Christ. Cette nouvelle humanité que Christ représente. Et qui dit, celui qui aurait foi en son sang versé, eh ben, serait sauvé. Le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus étant parfait, la mort n'a pas pu le retenir, et c'est aussi ce qu'on a chanté. Le matin du troisième jour, Jésus est ressuscité. Parce que la mort n'a pas d'emprise sur celui qui ne pêche pas. Et ça, c'est un plan parfait, et un plan qui est encore aujourd'hui incompris. Mais en ces moments de Noël, on peut se réjouir. Alors là, bien sûr, on déborde de la naissance, mais sans la naissance, il n'y a pas de sacrifice. Et c'est l'œuvre complète qui est ce plan. Et qu'est-ce que ça change, hein, les applications, qu'est-ce que ça change? Ben là, pareil. Tout dépend de notre foi. Si je crois que Jésus est né, beaucoup de gens le croient. Peu de gens maintenant remettent en question le Jésus historique. Mais si c'est un homme, et puis qu'on a inventé tout le reste, ben voilà, c'était juste un homme. Mais si Jésus a accompli les œuvres du Père, ben là, ça change tout. Si Jésus est vraiment celui qui m'a sauvé, si vraiment Jésus est celui qui m'a représenté devant le Père, et si je crois que par son sacrifice, moi, je suis sauvé, alors là, tout change. Parce que je suis justifié. Et maintenant, je peux avoir une relation avec ce Dieu qui a créé le ciel, les étoiles. Je peux avoir une relation avec ce Dieu qui m'était impossible d'avoir. Je suis sauvé parce que ce tombeau est vide. Il a été aussi chanté qu'on était esclaves, et aujourd'hui, il nous voit comme des frères. On était esclaves du péché, il nous a libérés. Mais si Jésus n'est pas fils de Dieu, et si la croix n'est rien, alors je reste sous la colère de Dieu. Je reste volontairement esclave du péché tout en me criant libre. Vous avez déjà parlé avec des gens qui sont libres. C'est les gens les plus enchaînés que je connaisse. J'ai discuté avec des gens qui se disent très libres, ouverts à tout, qui rejettent la religion comme des carcans qui nous enferment. C'est des gens qui sont enfermés dans plein de choses. Et qui sont des fois très intolérants. Pour prêcher la tolérance, ils sont très intolérants avec ceux qui pensent pas comme eux. Et ça, c'est un choix. Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu, mais c'est aussi le choix de l'homme. si la croix ne représente rien, si cette naissance ne représente rien pour toi, interroge-toi. Noël, ce n'est pas que les cadeaux. Quand on était petit, on chantait souvent cette chanson. Ce n'est pas qu'un beau sapin, ni des nounours en chocolat, ni des belles friandises. Alors bien sûr, ça en fait partie. On prend tous un peu de poids, pardon. Mais c'est pas que ça. Il dit attention, il y a un Noël qui était spécifique. Noël, c'est le rappel de cette naissance. C'est le rappel de la naissance de la lumière du monde. Et il faut faire un choix. Qu'est-ce que Noël? Une fête, des cadeaux. Un souvenir religieux qui va se perdre parce qu'on va briser les carcans de la religion poussiéreuse, ou c'est la réponse de Dieu pour mon péché. Ou c'est cette réponse merveilleuse, incroyable, insensée que Dieu a trouvée pour racheter l'humanité. Personnellement, moi j'ai la réponse, mais j'invite que chacun ait la sienne. Et dans ces moments de rappel, que chacun puisse vraiment, sans jugement ou sans préjugement, se pencher sur cette différence. Sur cette différence entre la parole de Dieu, la Bible, et ce qu'on a cru en entendre parler, ou ce que les gens nous en ont dit. Parce que la réponse à cette question est importante, elle détermine l'éternité. Et comme conclusion, on avait vu que Jésus, c'est le plan de Dieu. Comme conclusion, pour ces semaines, on a vu rapidement, bien sûr, on a esquissé un beau tableau du plan de Dieu. On n'a pas tout vu, de loin pas, mais je voulais vraiment ensemble qu'on s'invite à voir à quel point Jésus n'est pas, j'allais dire, une anomalie de la Bible. Jésus n'est pas quelque chose de bricolé à la va-vite, qui a pris Dieu par surprise. Jésus était la réponse. Jésus est la réponse, encore aujourd'hui, avant même le début de la création. Rien dans la chute, dans l'errance du peuple au désert, dans l'échec des juges, dans l'échec des rois, dans les différents exils, n'a surpris Dieu. Rien. Aujourd'hui encore, Dieu n'est pas surpris par ce monde qui le rejette. Dieu n'est pas surpris par ses lois qui s'opposent à sa loi. Dieu n'est pas surpris par parfois les faiblesses que nous avons encore dans nos églises. Dieu avait déjà un plan. Jésus reste le plan. Jésus reste celui qui est la tête. Aujourd'hui encore, n'endurcis pas ton cœur, dira l'auteur des Hébreux. Aujourd'hui encore, Jésus parle et n'endurcis pas ton cœur, parce qu'un jour, ce sera fini. On n'a pas tout le plan, mais on a déjà une belle esquisse, et je laisserai quelques versets dans Luc 24, versets 25 et 27. C'est quand Jésus, ils ne le reconnaissent pas, ils discutent avec ces quelques disciples qui vont à Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'a dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre de ces choses, qu'il entre dans la gloire? Puis, commençant par les écrits de Moïse, et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Personnellement, j'aurais aimé être là. Bon, j'y suis pas, la Bible ne le rappelle pas, mais vous imaginez, là, l'exégèse de la part de Jésus, ça devait être quelque chose. Et Jésus dit pas, regardez, c'est quelque chose de surprenant, il dit, vous êtes lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Il est surpris, ils auraient dû savoir. Et c'est pour ça qu'avec Nicodème, ils en discutent. Il dit, mais tu devrais savoir, toi tu es docteur dans la loi. Je nous laisserai encore ces versets de Paul, j'ai fini par Paul à chaque fois. Je nous laisserai cela. C'est Paul qui va s'adresser à un Corinthien. Il dit quelque chose d'incroyable, mais en même temps, ça boucle la boucle, où les Corinthiens remettent en question la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, il dit « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous annonçais, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. » Donc c'est cette bonne nouvelle que Paul annonce. « C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, cette foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » Conformément aux Écritures, il est né. Conformément aux Écritures, il a vécu. Il est mort. Et il est ressuscité.